C'est exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux.
Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM.
Sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, le 6e épisode Retour vers le futur. Aujourd'hui, on fait un saut dans les années 80 et on parlera de la radio libre. Donc, on va d'abord parler de la radio pirate pour vous mettre un peu dans le contexte. La radio pirate, c'est 1969 jusqu'en 1980 et s'installe sur les fréquences d'État. En parallèle, une dizaine de stations de radio FM, dites pirates, sont installées dans des appartements au sommet d'une butte ou d'une tour qui domine une agglomération. Je vais vous passer un extrait qui va parler de la radio verte, une radio pirate très connue. Bonne écoute.
Radio Verte, première diffusion. Émission manifeste.
Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qui ne bavent pas sur d'autres fréquences et qui n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner de prétexte. Donc les émetteurs fonctionnent parfaitement bien, on en est certain à partir de ces mesures, et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité.
Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés, dit-on, par toute cette histoire. Vous a-t-on demandé d'être particulièrement vigilant en ce moment ?
Je ne peux pas répondre particulièrement à cette question.
La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème.
Monsieur Voisin, interviewé au Jardin des Plantes, est venu travailler lui-même son émission. Faire parler, faire participer, rompre l'isolement dans les villes. À Paris, dans chaque quartier, des groupes écologistes se sont créés.
Ça, on le coupe, tout ça, ici.
Ils veulent constituer une hydre à 1000 têtes, apparaissant tantôt là, tantôt ailleurs.
C'est pas fait pour la prostitution. Non. Comment vous la voyez, la prostitution ? Vous êtes du quartier, non ?
Je pense que ça va changer. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes. Et puis, je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement.
Je ne vois pas en quoi une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui habite Perpignan. Rien. Ça apporte aux gens du quartier. Dans le quartier, on sait comment ils vivent. Moi, je pose une radio dans ma rue. Je vais ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier. Ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous comprenez ? La force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
De quoi tirera-t-elle ce qui est revenu ? Est-ce qu'il y aura de la réclame ? Vous avez d'autres questions ?
Non. pour l'instant, non. Je veux savoir si ça sera une radio écologiste ou on ne sera pas noyé de réclames et de lessive qui, elle, pollue.
Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une dérogation au monopole permette au groupe Amaury, à M. Blochten-Blanchet, à tous ceux qui tapis dans l'ombre, n'attendent que ça pour se dire ça va nous permettre d'augmenter à la fois nos bénéfices et également nos moyens de puissance.
Du côté de la majorité, les décrets d'application de la loi de 1972 doivent être soumis au Conseil d'État dans les semaines qui viennent. Le PC et le PS comptent aborder précisément le problème du monopole dans le programme commun réactualisé.
On parle de radio verte et le gouvernement dit « Oh mais attention, attention, qu'est-ce qu'il veut faire? De la répression comme dans tous les domaines ?» Mais c'est pas comme ça qu'il réglera. La vraie solution, c'est un grand débat national sur la démocratie des ondes et des images dans le cadre du service public et d'une manière adjacente, la démocratie, de l'utilisation des nouvelles techniques et partout avec une dominante, le pluralisme.
Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.
Vous écoutez JTFM 91.2. Donc je vous ai fait écouter cet extrait qui résume bien la radio pirate. En tout cas, ça me fait bien rire d'entendre que les radios de quartier, c'est inutile et ne sert à rien. Il faut savoir écouter tout le monde et je pense que ça prime sur l'art de la parole. Donc pour les radios libres, durant la présidence de Giscard d'Estaing, les gouvernements Chirac puis Barre réagissent immédiatement par le brouillage, tandis que des juges procèdent à plusieurs inculpations, mais la presse relaie largement la bataille des radios libres. Afin de coordonner le mouvement des radios libres, les pionniers et initiateurs de Radio Verte, Radio Ivre, qui est maintenant Radio Nova, Radio Ici et maintenant, et de quelques radios historiques, créé l'Association pour la libération des ondes, soutenue par des intellectuels comme Gilles Deleuze. L'opposition socialiste soutient le combat des radios libres pour la liberté d'expression, sans pour autant promettre la fin du monopole. Néanmoins, la création par des militants socialistes de Radio Riposte et l'inculpation de François Mitterrand et de Laurent Fabius créent un précédent. La multiplication des opérations de police, souvent spectaculaires contre les émetteurs illégaux, suscite la désapprobation générale. L'élection de Mitterrand lors de l'élection présidentielle française de 81 fait espérer une libération des médias. C'est en 79 que le Parti Socialiste se lance dans la bataille des radios libres, alors non autorisées, en lançant le 28 juin Radio Riposte, station pirate créée spécialement par le Parti Socialiste pour dénoncer la mainmise vers les réseaux d'information par le président Valéry Giscard d'Estaing. Je vais vous faire écouter des extraits de Radio Riposte, donc on va rentrer en immersion en 79 avec Radio Riposte.
L'émission pirate Radio Riposte, diffusée ce soir par la Fédération de Paris du Parti Socialiste, a été brouillée un peu plus de 3 minutes après la prise de parole de M. François Mitterrand. Au cours de son intervention, le premier secrétaire du Parti Socialiste s'est élevé contre ce qu'il appelle la mainmise du pouvoir sur les moyens d'information, mais n'a pu poursuivre plus avant en raison, je vous l'ai dit, du brouillage. Enfin, à 21h15, devant le refus d'ouvrir les portes, la police a forcé ses portes de la cité Malesherbes, d'où nous appelle François Médard.
Actuellement, la police bloque les issues du siège annexe du Parti Socialiste Français, dans lequel se trouvent une cinquantaine de militants et plusieurs élus parisiens, dont Laurent Fabius, l'actuel porte-parole du Parti Socialiste.
Monsieur François Mitterrand, à la suite des émissions pirates du Parti Socialiste, des émissions Radio Riposte, a été inculpé de violation du monopole de radiodiffusion en vertu de l'article 33 de la loi du 7 août 1974. Au terme d'une après-midi mouvementée, Monsieur Mitterrand a tenu à l'Assemblée nationale une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a insisté sur l'aspect politique de l'affaire.
Une foule tout à fait inhabituelle aux alentours du palais de justice cet après-midi, des élus socialistes, maires ou députés, des militants, sympathisants venus manifester leur soutien à François Mitterrand, Laurent Fabius et le sénateur Bernard Parmentier convoqué chez le doyen des juges d'instruction, M. Roger Lecamp. Il est 15h30 lorsque, sous les applaudissements, François Mitterrand et ses deux amis tentent de franchir les grilles du palais de justice. Ils auront du mal, vous le voyez, à se frayer un chemin dans la foule des journalistes et photographes contenus par un important cordon de policiers. Messieurs Mitterrand, Fabius et Parmentier sont entourés de leurs avocats, Maître Badinter, Roland Dumas et Vauzelle. Ils sont accompagnés par Gaston Defferre, le président du groupe parlementaire socialiste. À sa sortie, François Mitterrand, qui a été inculpé, ainsi que ses deux amis, fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale.
Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Eh bien, je le dis avec force, les auteurs de ces manquements sont le président de la République et son gouvernement. C'est pourquoi le Parti socialiste a décidé de lancer une vaste campagne afin que l'opinion se rende compte à quel point est menacée dans notre pays la liberté d'information. Le procès qui commence n'est pas celui qu'on veut instruire contre le Parti socialiste et son premier secrétaire. Il est celui que les socialistes engagent contre l'arbitraire et l'illégalité des agissements du pouvoir politique actuel. On a voulu un procès politique, on l'aura. Le Parti socialiste cible des attaques parce qu'il est le parti de la relève et de l'espoir, continuera son action tant que ne sera pas respectée la liberté de la presse dans notre pays.
Et du coup, François Mitterrand, soutenu par le Parti socialiste, remporte l'élection présidentielle en 81 face à Valéry Giscard d'Estaing. Cela devient la radio libre.
L'Association pour la libération des ondes, l'ALO, les défenseurs donc des radios libres, n'y sont pas allés de main morte cet après-midi, répondant à M. Georges Filliot qui, dans le journal du dimanche, s'opposait à nouveau à toute publicité sur les antennes des radios privées locales. L'ALO parle de gifle à l'esprit du 10 mai. Selon cette association, la position défendue par le ministre de la Communication équivaut à condamner à la peine de mort toutes les radios libres sérieuses et indépendantes.
C'est du cinquième étage d'un immeuble du 9e arrondissement qu'émet Radio Pomme. Cette petite radio, non pas pirate, car le terme n'existe plus depuis le 10 mai, est ce qu'on appelle une radio libre, car bien que toujours interdite par la loi de 1974, elle est tolérée par le nouveau gouvernement socialiste, et cela jusqu'à l'adoption d'un nouveau projet de loi qui aura lieu à l'Assemblée la semaine prochaine. Salle de montage rudimentaire, studio avec un disc jockey et deux animatrices, qui sont bien entendu tous bénévoles.
27, 47, avec Annie et Sylvie.
Plus loin, une petite cuisine, et à côté des carottes et des condiments, l'émetteur relié à l'antenne sur le toit. Les 55 bénévoles, techniciens, journalistes et animateurs n'ont peur que d'une chose, c'est que Georges Filliou reste sur ses positions sur l'interdiction des publicités sur les radios libres.
Pour faire une radio de qualité, il faut de la publicité. Évidemment, si la publicité est interdite, il existera toujours des radios libres, mais des radios qui seront à faible budget, qui seront inintéressantes, car pour préparer une heure d'émission, il faut à peu près compter 4-5 heures de préparation.
Entre le ministre et ce jeune homme, pas d'accord sur la publicité. Mais il y a plus important. Qu'est-ce donc une radio libre ? Pour le gouvernement, à l'évidence, quelque chose qui n'existait pas et qu'il faudra concrètement inventer par la loi. Pour beaucoup de ceux qui se sont lancés dans l'aventure, c'est un rêve qui, devenu réalité, ne sera plus un rêve.
Et donc, les radios libres sont souvent des radios associatives et ils ont besoin de financement. Certaines radios veulent absolument pouvoir mettre des pubs. Les radios telles que Énergie vont prendre un tournant commercial dès le milieu des années 80.
Réunion des responsables des radios libres ce week-end au Sénat à Paris. Les radios libres qui sont dans l'attente des décisions du nouveau gouvernement. Le commentaire de Gérard.
Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des deux fédérations qui représentent les petites radios. Les deux frères ennemis se sont mis d'accord sur un code de bonne conduite concernant la puissance, le statut et la publicité. Selon ce code, les radios devront être constituées sous forme d'associations à but non lucratif. Et dans ce petit monde des radios libres, on a surtout demandé l'arrêt du brouillage.
Ces assises nationales des radios libres lancent un appel qui est le suivant, la cessation immédiate de toute forme de brouillage contre les radios libres. C'est en ce nom que la Fédération nationale des radios libres lance cet appel à toutes les structures sociales, politiques, associations et autres pour qu'elles reprennent en charge cet appel pour la liberté d'expression sur les ondes.
Pour le moment, le brouillage persiste pour la grande majorité des radios, ce qui n'empêche pas les projets d'installation de croître. Rien que sur Paris, on en compte actuellement plus de 40.
Paris-Bordeaux-Le-Mans.
Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi.
C'est normal.
D'accord.
L'apparition des radios locales pose un problème nouveau, c'est celui de la gestion d'une liberté et d'un droit qui a été jusqu'à présent méconnu et même réprimé beaucoup au cours de ces dernières années. Un des problèmes de cette gestion, c'est celui du financement de ces radios locales. Et parmi les problèmes de financement, c'est celui de la publicité et du financement publicitaire. Or, il va falloir que très rapidement, nous puissions inventer une façon de bénéficier des recettes publicitaires de façon à ce qu'elles permettent de financer un véritable service public des radios locales.
Beaucoup de questions restent donc posées. D'autant que le gouvernement, pour le moment, se contente de consulter. Il n'a pas la moindre envie de laisser la plus petite porte ouverte à une situation à l'italienne.
Toujours prévu donc et adopté ce matin au Conseil des ministres, la réglementation de l'accès de la publicité sur les radios libres qui avait été annoncée par le président de la République lors de sa dernière conférence de presse. En fait, sur le terrain, la publicité a déjà fait son entrée sous diverses formes. Toujours prévu donc et adopté ce matin au Conseil des ministres, la réglementation de l'accès de la publicité sur les radios libres qui avait été annoncée par le président de la République lors de sa dernière conférence de presse. En fait, sur le terrain, la publicité a déjà fait son entrée sous diverses formes, comme l'a constaté Bruno Le Dreff lors de son enquête.
Le loup était dans la bergerie depuis longtemps déjà. La publicité sur la bande FM, ce n'est pas vraiment nouveau, mais aujourd'hui, c'est autorisé. Fini les galères des parrainages, sponsoring et autres publi-reportages. Vive la pub, vive le commerce. Les radios locales privées ont plus de 5 millions d'auditeurs réguliers. Un auditoire de qualité, jeune, disposant d'un bon pouvoir d'achat. Une cible convoitée par les publicitaires. Le temps des démonstrations de force est donc venu. On rassemble ses auditeurs dans de grandes fêtes. Il faut impressionner les annonceurs.
Voilà, ces deux jeunes gens sont à l'origine de cet après-midi. On les a tenus une fois de plus très fort.
Eh bien, l'autorisation de la publicité va devoir nous apporter l'indépendance, la véritable indépendance. Nous n'allons dépendre que de nous et de nos auditeurs. Et ça va nous permettre de devenir encore plus professionnels. Certaines ont la possibilité de demeurer associatives. Et pour celles qui choisissent le statut commercial, eh bien, les règles de la libre concurrence vont jouer et la loi du marché. Les meilleurs, émergeront. Quoi.
Pour être toujours plus fort, il faut des alliés. Énergie vend donc son label à des radios de province, comme ici, Scoop, à Lyon. Le calcul assuré aux annonceurs des campagnes nationales sur les radios locales. Pour les petites, comme Ciel FM, toujours à Lyon, la concurrence va être difficile. La radio a besoin de 10 millions de centimes par mois. Actuellement, la publicité lui en rapporte 4. Il n'est pas sûr que la nouvelle loi améliore cette situation.
Contrairement à ce qu'on peut penser, nous, Ciel FM à Lyon, toute l'équipe, on n'a pas bu le champagne, pas du tout, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas, dans une ville comme Lyon, 36 places pour des radios commerciales. Il doit y en avoir 3 ou 4 au maximum. Et il est extrêmement difficile pour une radio moyenne comme Ciel FM de pouvoir se hisser dans les quatre premières places.
Il existe aujourd'hui 865 radios comme Ciel FM. Selon les professionnels de la publicité, seules 150 à 200 d'entre elles bénéficieront de la manne publicitaire, un marché de 100 millions de francs par an.
Ce sera un monde extrêmement vivant. Et il n'est pas impossible que les 150 à 200 radios dont je parle ne soient pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que là, nous allons assister à des cycles de vie extrêmement variables des stations. C'est-à-dire celles qui sauront apporter quelque chose à leurs auditeurs se maintiendront, d'autres se renouvelleront, d'autres mourront et de nouvelles naîtront.
Les radios qui opteront pour le statut commercial vont devoir convaincre les annonceurs de leur capacité d'imagination, de leur rigueur, de leur audience. Mais pour conserver cette audience, elles devront aussi se défier de la publicité.
Cela devient la loi du plus fort. Certaines radios associatives non commerciales veulent garder leur totale indépendance éditoriale et donc refusent d'employer la ressource de la publicité. En écoutant les extraits des archives de l'INA, ça m'a donné envie de faire une petite pause musicale. Années 80, je vais vous passer Sada Bonheur, Earth Overhead.
Your eyes,
Vous êtes toujours sur JTFM 91.2. C'était Earth Overhead de Sada Bonheur. Maintenant, on va parler de l'histoire de Jet, parce qu'elle maintenant, elle a 33 ans. Je vais vous passer un extrait du 18h de Télé Nantes à ce moment-ci. Bonne écoute.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et ce soir, ceux qui font l'actu font aussi un petit peu l'histoire. Et oui, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, le calendrier fait un peu des siennes. On joue au temps qui passe, on joue à la nostalgie. Regardez, samedi soir, par exemple, sous les nefs, c'était les 30 ans du groupe Elmer Footbeat. Vous y étiez sans doute, Télé Nantes y était en tout cas. Et aujourd'hui, on continue à célébrer un anniversaire. On célèbre les 30 ans de la radio curieuse. C'est les 30 ans de Jet FM. Mes invités sur ce plateau seront donc les créateurs de la radio en 1986, c'est eux qui ont tout démarré, et également le directeur actuel de cette radio qui est toujours installée au centre socio-culturel de la Bernardière dans le quartier Bellevue à Saint-Herblain. Elle y est toujours, ça n'a pas changé. On va revenir sur son histoire. Et puis en fin d'émission, je vous propose de découvrir un petit moment de grâce, un petit moment suspendu. Ce sera de la danse dans un lieu emblématique de la ville de Nantes. C'est une vidéo qui cartonne en ce moment sur les internets. Elle cumule plus de 10 millions de vue. Alors je voulais pas que vous passiez à côté, ou alors si vous l'avez déjà vue, vous allez avoir plaisir à la revoir. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite. Elle s'est appelée Radio Parpin, Fun FM, mais on la connaît surtout aujourd'hui comme Jet FM. La radio souffle ses 30 bougies cette semaine avec une programmation spéciale, un peu retour vers le futur. Quand vous allez allumer votre radio, vous aurez l'impression d'être en 1986, tant côté musique que côté chronique. Et on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là avec nous. Patrick Guérin et Bernard Dargouge, vous êtes les hommes à la moustache, et vous êtes aussi les deux papas de Jet FM, on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui, on peut ?
Oui, on peut.
Oui, ça va, c'est correct. Vous, Patrick, plutôt côté technique, et Bernard, vous étiez animateur socioculturel au moment de la création, c'est important puisque ça fait partie évidemment de l'ADN de la radio, on y reviendra. Et Loïc Chusseau, qui est le directeur actuel de la radio. D'abord, première question, pourquoi elle s'est appelée Jet FM, cette radio ? Est-ce que c'est parce qu'on parlait déjà d'aéroport à l'époque ? Ou alors parce que c'est une radio qui en jette ? C'était quoi l'idée ?
Ouais, c'était un petit peu ça, oui. C'est un projet dynamique, il fallait lui trouver un nom très court pour pouvoir l'exprimer de façon en grosses lettres s'il y avait besoin. Mmh. Et puis, ça a une signification quand même.
Ah, ça veut dire quelque chose.
Jeune et talentueux.
Ah.
Et ça, c'est pas de nous, c'est effectivement un jeune qui a fait la proposition et voilà, ça a été admis à la quasi-unanimité.
Et voilà, et puis ils sont toujours jeunes et talentueux ceux qui font jette.
Ah, peut-être.
Donc ça colle, c'est pas démodé.
Plus que ça même. C'est modeste.
Un petit mot pour ceux qui connaîtraient pas cette radio. Je m'adresse du coup au directeur actuel. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui quand on se branche sur le 91.2 FM ?
Ben on découvre en fait la radio, je pense. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce qu'on peut faire avec la radio. Parce que souvent les gens sont habitués un peu aux tubes commerciaux, aux canaux qui sont les gros réseaux commerciaux. Mmh. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est aussi d'écouter sans pub, de manière peut-être plus lente, plus tranquille, de la musique que les gens découvrent, ne connaissent pas. Et puis aussi, on diffuse beaucoup de créations. Local, national, international. Le but, c'est de faire découvrir. Enfin, on peut découvrir le groupe local, qu'on peut découvrir un groupe international qui est local dans un autre pays. Enfin, voilà. Et puis, si beaucoup de créations.
Local de quelqu'un.
Voilà. Et puis, beaucoup de créations radiophoniques, des projets aussi avec les jeunes, qui est en fait l'ADN aussi du projet de Jet FM. Donc, c'est la découverte. Et puis, le temps aussi, de prendre le temps, donner la parole aux gens, aux acteurs associatifs.
Oui, alors c'était de donner la parole aux jeunes, puisque vous êtes toujours installé dans un centre socio-culturel, je le disais, à la Bernardière, dans le quartier Bellevue, côté Saint-Herblain. Et donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu, les fondamentaux, le sens qu'avait cette radio au départ. Et vous aussi, il y a eu le côté technique, vous êtes arrivé, vous étiez un bricoleur, on dit le MacGyver un peu de cette radio, pour reprendre les références so IT's. Il paraît même que l'antenne a été faite avec un tuyau de chauffage au démarrage, c'est ça ?
Tout à fait. Au tout départ de ce projet, il a fallu démontrer que ça avait du sens. Donc on est parti avec rien du tout. Donc j'ai pris des tuyaux de cuivre en chauffage. J'ai créé ce dipôle. J'ai fabriqué le petit émetteur avec des composants récupérés sur des télés, des radios. Ça a craché 2,5 watts, donc pas grand-chose. Ça marchait avec un gros sèche-cheveux parce que ça chauffait tellement que j'arrivais pas à stabiliser la fréquence. J'étais pas encore très bon dans les calculs. Et on est parti de là, donc de presque rien. Et aujourd'hui, 30 ans après, mon Dieu...
Ça passerait pas les normes aujourd'hui, hein, comme ça, avec ce genre de bricolage.
C'est clair, mais voilà. Ouais. C'était histoire de démystifier un peu ce qu'était la radio. Les jeunes avaient l'habitude d'écouter la radio, mais ils parlaient dans un micro et s'écoutaient 300 mètres plus loin.
Ouais, faut rappeler un peu le contexte, parce qu'on est en 86, c'est aussi le démarrage des radios libres. Il y a une effervescence au niveau de la radio, mais pourtant, la radio n'est pas ouverte à tout le monde. Et vous vouliez aussi l'ouvrir à, vraiment à tous, quoi.
On voulait l'ouvrir à tous, on voulait surtout l'ouvrir aux jeunes, parce que la plupart des radios associatives ouvraient des portes aux adultes, aux associations, avaient un programme assez ciblé, et les jeunes n'y avaient pas de place. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse leur permettre une véritable communication, une expression sur les ondes, donc on a développé ce projet. Qui avait trois axes. Hein. Le premier, c'était une radio-école, donc d'initiative d'apprentissage pour les jeunes, pour les scolaires, pour les collégiens, voire pour les adultes. Une radio qui relayait également la vie associative locale, donc tout ce qui pouvait passer par le sport, la culture, et puis tous les projets qui émergeaient à un moment ou l'autre dans l'année, quoi. Et puis le troisième point, c'était aussi d'assurer un petit peu la promotion des artistes locaux. Mmh. On était quand même entouré d'artistes qui n'étaient pas franchement connus et qui n'avaient pas de place dans les médias beaucoup plus commerciaux. Donc on voulait être différent des autres, donc des autres radios en particulier.
Mmh. Et aujourd'hui, Jet FM a toujours ce créneau-là, de tendre le micro aussi aux jeunes et de faire vivre aussi la vie de quartier. C'était aussi ça, hein, l'idée au départ.
En fait, on l'a amplifié, parce qu'aujourd'hui, on a 9 salariés, on a plus d'une centaine de bénévoles, on a des services civiques aussi qui viennent participer au projet associatif. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'association JET. Donc, il y a le projet Radio JET FM, qui est, on va dire, la partie visible de l'iceberg. Et ensuite, on a tout le volet éducation aux médias, qui est développé depuis 2 ans, qui s'appelle le Sonolab, qui accueille pratiquement 1 millier de jeunes par an. On a tout le volet de formation professionnelle et tout le volet résidence et création avec le festival sonore aussi qui aura lieu mi-octobre prochain. Donc on accompagne beaucoup de jeunes et de projets aussi au quotidien. Voilà, donc c'est Jet FM ou Radio Parpin, il y a 30 ans, puissance 10 000, voilà, on va dire.
Ah, c'est rassurant.
On voit des images là, qui ont été tournées ce matin. On vous a d'ailleurs vu à l'image, puisque vous avez participé à l'émission Midi, qui est le rendez-vous du midi sur Jet FM, animé par Pascal Massiot. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de revenir sur les lieux du crime ce midi et de voir comment avait évolué votre bébé?
D'abord, beaucoup d'émotions, c'est sûr, hein, parce qu'on est parti de rien et aujourd'hui, il y a quand même une très belle radio. Et puis, c'est bien, en général, quand le créateur s'en va, souvent, ça meurt. 30 ans après, ceux qui ont suivi ont porté le flambeau, ils l'ont bien porté, je pense. Hein. C'est un beau défi, il continue à être mené correctement. Pour moi, c'est fantastique, quoi. Tout simplement.
Ouais. Et c'était et ça a changé, ça a beaucoup changé. Alors vous, on va dire aujourd'hui, vous êtes installé à Paris, vous êtes revenu exprès pour cet anniversaire.
Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce que vous avez perçu du changement de la radio et puis du quartier autour?
Le quartier, pas eu trop de temps d'aller voir de près, mais la radio, ouais, elle a beaucoup évolué, elle a gagné beaucoup de mètres carrés. À l'époque, on était dans une toute petite pièce. Il y a plein de matériel dont on n'aurait pas rêvé il y a 30 ans. Et puis des jeunes partout, j'ai vu des consoles allumées partout, des gens qui travaillent.
Il n'y a plus de sèche-cheveux et tout ça.
Non, on est rentré dans l'ère du pro.
On n'a pas créé le musée encore, c'est dommage.
Ce sera pour dans 30 ans peut-être.
Non, c'est beau de savoir que voilà, le projet a vécu sa vie, il continue et... Je suis plutôt fier de Jet FM aujourd'hui.
Ouais.
Alors c'est sûr, c'est un projet qui a évolué, qui a grandi, comme tous les enfants, et il fait sa vie. C'est tout ce qui compte.
Oui, qui a pris de l'ampleur aussi.
Tout à fait, oui. Ouais.
Et vous, en tant qu'animateur socio-culturel, puisque c'était votre rôle alors, quel regard vous avez porté aujourd'hui de revenir au Centre socio-culturel à Bernardière et à
Moi, j'étais assez curieux de voir comment ça avait évolué, parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Et donc, effectivement, j'ai redécouvert toute une installation, du matériel, tout ça, qui, Bah, ça fait un petit peu rêver, parce que quand on sait qu'on est parti vraiment avec des bouts de chandelle et puis qu'on a eu du mal à construire, qu'on a été victime de cambriolages qui nous ont mis à, vraiment à zéro, et qu'on a relancé la radio pour la redémarrer une bonne fois, alors je ne sais plus en quelle année, mais début des années 90, quoi. Donc voilà, c'est bien de voir que bah, nous, on s'accrochait fortement à l'époque, et c'est bien de voir que ça dure et que ça poursuit, et que ça intéresse toujours, tant pour venir s'exprimer que pour écouter, quoi.
Ouais. Il y a toujours beaucoup de jeunes, de bénévoles qui font participer, qui participent à JetFM aujourd'hui.
Bah, ouais, plus d'une centaine de bénévoles et de plus en plus de jeunes. Là, je disais tout à l'heure, il y avait des services civiques voilà, qui sont intégrés depuis quelques mois. D'ailleurs, il y en a une qui a conduit d'ailleurs toute leur coordination des 30 ans, qui va partir à la fin de la semaine, Farnaz Ratei, voilà, qui nous a accompagnés pendant 8 mois.
Qui ne doit même pas avoir 30 ans, du coup.
Non, qui n'a pas 30 ans, qui a moins de 25 ans, voilà, donc, qui n'a pas connu les débuts de JetFM. Mmh. Et puis surtout, bah, comme on accueille beaucoup de jeunes, notamment des collégiens, dans le cadre de stages ou de projets éducatifs, bah, c'est des jeunes qu'on retrouve ensuite qui commencent à postuler pour des projets à partir de 16 ans. Voilà. Donc, d'ailleurs, l'appel à projet émission est ouvert jusqu'au 15 juin. Donc, pour les jeunes qui veulent candidater.
Des jeunes du quartier Bellevue, prioritairement non,
De l'agglomération, du département. Ouais. Puis on a aussi des échanges de production d'émissions avec d'autres radios ou avec d'autres bénévoles à l'extérieur. Donc, non, c'est ouvert à tout le monde. Après, il y a une ligne éditoriale, on va dire, sur la découverte, sur la question de la musique et les musiques émergentes, des choses comme ça. Voilà, la curiosité.
La radio curieuse. Sur la question de la longévité de cette radio, on est allé aussi interroger ce midi Pascal Massieu, justement, qui est journaliste à JetFM depuis 15 ans et qui dit pourquoi il a toujours autant de passion à faire son métier. On l'écoute.
Je dis quelquefois, pour blaguer un petit peu, mais c'est un petit peu vrai, que finalement, moi, je suis payé pour parler avec les gens. Alors, dès l'instant qu'on est un peu curieux, sincèrement, de ce que font les autres, eh bien, on peut qu'étonner au jour le jour de se coucher sans doute un peu moins idiot qu'on ne s'est levé. Et je suis parfois fatigué, mais jamais lassé de mon travail. Et ça, c'est une magie toujours renouvelée. Ça, c'est un grand confort. Le vrai luxe, il est là. Il n'est pas sur les conditions d'exercice de la radio, parce que nous sommes un média associatif avec les moyens qu'a ce genre de média. Mais le plaisir, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix et qui permet de jamais s'ennuyer. Et cette semaine, je pense que je vais bien m'amuser, même si on a ici beaucoup travaillé pour mettre en place ces rendez-vous et de mettre toute la grille en 1986.
Voilà, la radio, c'est parler avec des gens. C'est toujours valable aussi, ça, cette maxime. Je me demandais, moi, à l'heure de beaucoup de la vidéo, des plateformes YouTube, de toutes ces choses-là, est-ce que les jeunes, ça les fait toujours autant rêver de faire de la radio? Est-ce que la vidéo n'a pas pris le pas?
Bah, nous, c'est... Enfin, je sais que là, les jeunes qui viennent sur des ateliers, c'est toujours aussi magique parce que, du coup, on ne voit pas un studio de radio. Enfin, et surtout un studio comme celui de JetFM, les jeunes ne le voient jamais. En fait, voilà, des fois, ils voient les studios de radio commerciale, mais celui de JetFM, ils ne connaissent pas. Et surtout, c'est l'appropriation des outils. C'est-à-dire manipuler une console, manipuler un enregistreur, aller faire une interview, faire de la création, de la poésie sonore. Ça éveille l'imaginaire des jeunes, quoi. Donc c'est ça qui les intéresse aussi. Et quand on leur diffuse, je ne sais pas, une fiction ou une poésie sonore, ils découvrent vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'est vraiment la radio aux origines. C'est-à-dire que, avant que la télé existe, tout ce qui se fait aujourd'hui en télé, c'est-à-dire le documentaire, de la fiction, se faisait avant la radio. Ça s'est perdu par le dévoiement commercial. Mais aujourd'hui, les radios associatives ont quand même... poursuivre cette mission, qui ont été d'ailleurs inscrites dans la loi en 1986. Voilà,
Donc ça fait et même ans. Par rapport au web, quoi, il n'y a pas de rivalité. Enfin, il n'y a pas de rivalité.
C'est quelque chose qui est transmédia, on va dire, complémentaire. Puis on a des médias comme Fragile, comme Vlip aussi, des associations qui font aussi des médias, des bénévoles qui se croisent sur ces médias-là. Ouais. Et du coup, il y a de l'échange, même nous, entre structures. Des fois, on coporte des projets avec d'autres partenaires. Donc il y a un croisement, il n'y a pas de rivalité. Au contraire, il y a une complémentarité qui se joue depuis des années, d'ailleurs.
Et alors, depuis 30 ans, la radio est toujours aussi un centre socioculturel de la Bernardière. Il y aurait pu y avoir des déménagements, mais vous êtes toujours là. C'est quoi le sens d'avoir lancé cette radio dans ce quartier-là et de le conserver? C'était quoi, au départ, l'envie de que ce soit là, dans le quartier Bellevue?
Alors en fait, moi j'étais déjà animateur dans ce centre social, donc j'y étais bien. Il y avait une équipe de professionnels de haut niveau, et complètement ouvert, un conseil d'administration qui était aussi très dynamique. Et du coup, ils m'ont épaulé, ils ont soutenu le projet d'emblée. Et le projet était vraiment à vocation pédagogique. Je tournais déjà sur la bande FM dans différentes radios. Je voyais ces jeunes qui étaient très intéressés mais qui n'arrivaient pas à rentrer. Et je me suis dit, c'est trop dommage, donc allons-y. Et voilà, j'étais le MacGyver, certes, mais je leur ai appris à monter, à faire de l'illustration sonore, à faire du bruitage. On a travaillé beaucoup avec les classes de CM1, CM2 de la commune. On a monté un épisode radiophonique, 9 épisodes de 20 minutes pour une classe de CM2, des enfants qui ont entre 11 et 12 ans, avec les bruitages, les illustrations sonores, c'est fabuleux, c'est un vrai défi. Et des jeunes...
encore plus dans un quartier populaire comme celui de Bellevue, qui n'avait peut-être pas accès à
ils n'avaient pas du tout accès du tout. Pour eux, ils n'imaginaient pas qu'ils auraient pu faire ça, et avec des difficultés d'expression, etc., ils se sont surpassés, ils se sont portés les uns les autres, pas de moqueries en classe sur les bafouillements. Au contraire, on refait la prise, etc. Moi, j'intervenais très peu. En fait, ils ont mixé tout seuls, ils ont fait les prises de son tout seuls. Et ils ont abouti, ils ont sorti leurs 9 épisodes de 20 minutes. C'est gigantesque.
C'est énorme, c'est des formats qui existent presque plus.
Et j'ai vécu vraiment les choses vraiment très intenses.
On est toujours dans le centre social, mais on n'est plus rattaché juridiquement au centre social depuis 2010. C'est vrai qu'après, là, on va déménager cet été pendant un an, puisqu'il va y avoir des gros travaux sur le centre social. Mais c'est vrai que la question de l'éducation populaire, d'ailleurs, quand en 2010, on a fait scission avec le centre social, juridiquement, on a continué, on a réinscrit d'ailleurs la question de l'éducation populaire dans notre projet. On le met en avant parce que c'est, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ADN. Et ça, ouais, même si, inconsciemment, je pense que ça s'est prolongé, ça s'est poursuivi tout au long de ces années. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le Sonolab, qui est vraiment l'atelier des sons auprès des jeunes, existe et est d'ailleurs reconnu par de nombreux partenaires. Et on travaille avec beaucoup, beaucoup d'écoles et d'établissements sur le département.
Alors, pour marquer le coup de toute cette histoire qu'on sent, voilà, qui est riche de souvenirs, il y a une semaine particulière, du 13 au 19 juin, avec une programmation particulière, notamment aussi au niveau musical. Alors, on a voulu se remettre un petit peu dans les oreilles, on va jouer avec vous. Ce qu'on écoutait en 1986, on écoutait ça. Vous vous en rappelez? C'est quoi ça? Vous n'étiez pas les programmateurs musicaux.
Je n'étais pas fan de ce type de musique, mais par contre, je suis sûr de l'avoir entendu, réentendu, parce qu'on avait la sonorisation de la radio dans le hall du centre.
Ah oui.
Donc,
vous l'entendiez tout le temps. Ouais, c'est Limi des Roses, c'était toi, mon toi, qu'on réentend cette semaine sur Jet FM. Ça fait partie de la programmation de votre programmateur musical, Henri, qui va nous remettre dans les oreilles cette année 1986. Il y avait aussi ça, par exemple. Ça, c'est très encore à la mode. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps à Silicon Valley à Nantes. Vous les reconnaissez?
Non.
Non.
Je vais être nul, je vais me faire charrier parce que j'ai pas répondu au blind test.
Blind test, ça va bon là. Kraftwerk.
Ah bah oui.
Kraftwerk, musique non-stop, c'était aussi en 1986. Voilà. Et puis tout de suite, voilà. Et donc si vous voulez... on s'en perturbe, on parle dans l'oreille, voilà, je le dis franchement. Si vous voulez retrouver l'ensemble de la programmation de la semaine, il y a le site de Jet FM. On vous invite à vous brancher sur le 91.2 pour revivre aussi les chroniques de cette époque-là. Vous allez vous replonger dans vos jeunes années. Merci messieurs d'avoir été avec nous.
Vous êtes toujours sur Jet FM, Retour vers le futur 6, spécial Radio Libre. Et voilà, on arrive à la fin de l'émission, donc j'espère que cela vous a plu, ce petit saut dans les années 80. Je vais vous laisser avec un mix de jingle des années 80-90. Retrouvez le podcast de l'émission sur le site du sonolab.fr et en rediffusion dimanche à 11h. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Marvra Music présente.
Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qu'il y a tous les samedis soirs à 19h50 sur Skyrock?
Mais c'est Marlboro Musique, bien sûr, mon enfant.
Oh, c'est super, un mec Antoine de Côte?
Lui-même, lui-même.
This is Marlboro Music.
Le move. Hot.
Dance. Rock. Rap. M40. La musique de toute une génération. M40.
La musique fait bouneuse maximum. Ça parle moins, ça bouge plus.
Plus.
Maximum.
Pourvu que ça
bouge.
Maximum.
Maximum.
Maximum avec 2x.
Tous les tempos.
Tempos. Dans la peau. Maximum.
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 Pour la radio
qui réveille les morts. Maximum avec le double X. La nouvelle musique à son maximum. Maximum.
Les autres radios passent toutes la même chose.
Même chose.
À nous. Passez sur Maximum.
Top au top. Maximum. La musique propre. La radio.
La radio.
Que les autres radios écoutent.
Que les autres radios écoutent.
Maximum.
Les
meilleurs remix.
Et seulement sur Maximum.
Maximum. Maximum.
Nouvelle musique.
Dose, Maximum. Elle vient de tous les pays d'Europe. La nouvelle musique vient de Maximum.
Maximum.
Chez nous, la musique ne s'arrête jamais. Maximum. Bloquez votre radio et jetez le bouton.
Vous êtes sur
Maximum. Maximum. Les années maximum commencent.
Maximum.
La nouvelle musique à son maximum.
Maximum.
Bloquez votre radio et jetez le bouton. Vous êtes sur Maximum.
Vous avez demandé Maximum. Ne quittez pas.
J'étais en train de chercher, puis je suis tombé sur la station, ça m'a plu, puis voilà.
Je connaissais pas du tout, et voilà, j'écoute, je fais que ça. Puis j'aime bien les musiques.
Bon, la musique est super, enfin, c'est ce que j'en pense. Ça bouge plus, quoi.
C'est la musique au maximum qu'on mettait.
Votre radio, bon, c'est de la musique non-stop, ça bouge plus, c'est ça la radio.
Merci d'être branché sur la Max Musique.
Max Musique. Maximum. Soirée maximum.
Rock the house show.
Maximum.
Yes,
dude.
Radio Nova.
Yes,
is this the Buffalo operator?
Radio Nova.
Well, do you have a
city? C'est toujours pareil.
Mais si ça répond pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
Radio Caroline FM 24/24.
Radio à Nantes. Radio Nantes.
Je suis un bon génie. Je peux réaliser 3 de tes souhaits.
Alors je veux 100 briques tout de suite.
Oui.
Et je veux voler comme les oiseaux.
Oui.
Et je veux écouter Skyrock où je veux et quand je veux.
Pour les 2 premiers souhaits, il me faut un peu de temps. Mais pour le 3e, écoute.
Et un petit bonus musical, Crowdzone Iceberg. Bonne écoute.
Thank you.